Nous achevons notre lecture de l'Évangile de Jean par le chapitre 17. Livret général, page 22-23, pour ceux qui veulent suivre le plan. Et nous allons lire au chapitre 17 les versets 1 à 19. Les versets 1 à 19. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le Fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce que c'est comme dans Le Roi Lion? Hakuna Matata. La vie sans aucun souci. Qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce que c'est la fin de la vie? Comme dans le bouddhisme ou l'hindouisme, la délivrance? L'extinction, la fin de la vie terrestre. Pas facile de définir ce que la Bible entend par vie éternelle. Pas facile de définir ce que la Bible entend par vie éternelle. L'expression vie éternelle se retrouve 23 fois dans le Nouveau Testament. 23 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot vie éternelle apparaît 17 fois dans l'Évangile, en tout cas dans les écrits de Jean. Les écrits de Jean, c'est-à-dire l'Évangile de Jean, les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse. 17 sur 23. 17 fois, donc dans l'Évangile de Jean. Et l'Évangile de Jean ne donne pas une description claire de ce qu'est la vie éternelle. Regardons en particulier dans les chapitres 3, les chapitres 6 et les chapitres 5. Dans les chapitres 3, par exemple, il est question de la vie éternelle, et si on peut lire, on connaît tous, « Quiconque croit est la vie éternelle. » Verset 16, « Quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais est la vie éternelle. » Verset 36, toujours du chapitre 3, « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. » Chapitre 5, « Celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et chapitre 6, 3 versets aussi, « La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle. » Verset 47, « Celui qui croit a la vie éternelle. » Et verset 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » L'ensemble de ces versets met l'accent sur, en tout cas on a l'impression, met davantage l'accent sur la condition pour recevoir la vie éternelle. Et cette condition, c'est la foi en Jésus. D'un côté, donc, c'est la condition qui est mise en avant. Et de l'autre côté, les versets de l'évangile de Jean nous indiquent que la vie éternelle est un don et le don de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Mais on n'a pas vraiment une description ou une définition de ce qu'est la vie éternelle. Et on arrive à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 17, et on a l'impression, en tout cas peut-être, que Jésus est en train de proposer une définition de ce qu'est la vie éternelle. Et on peut relire le verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle consiste à connaître Dieu et Jésus-Christ. Pour Jésus, donc, la vie éternelle n'est pas d'abord une vie dans l'au-delà, une vie sans soucis, une vie dans un endroit merveilleux. La vie éternelle n'est pas une vie à venir, mais c'est une vie, pour Jésus, qui commence ici-bas. Et cette vie commence au moment où nous connaissons Dieu et nous connaissons Jésus-Christ. La vie éternelle est de l'ordre de la connaissance de Dieu et de Jésus. La vie éternelle est de l'ordre de la connaissance de Dieu et de Jésus. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, en fait, à travers les versets 1 à 10. Les versets 1 à 10, vivre, c'est connaître Dieu, j'ai intitulé ça la première partie, en fait, en analysant, en regardant le champ lexical. Regardons le champ lexical, et c'est le champ lexical du savoir ou de la connaissance. Par exemple, verset 1, « Afin que ton Fils révèle ta gloire ou glorifie », selon d'autres traductions, « Ton Fils révèle ta gloire ou te glorifie ». Verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse ». Verset 4, « J'ai révélé ta gloire sur la terre ». Verset 5, « Père, révèle toi-même ma gloire ». Verset 6, « Je t'ai fait connaître ». Verset 7, « Ils savent, je leur ai donné les paroles, ils les ont acceptées, ils ont reconnu, ils ont cru ». Verset 8 et verset 10, « Ma gloire est manifestée ». Le champ lexical du savoir, de la connaissance. Et nous avons ici affaire, il me semble, à ce que j'ai appelé un processus de révélation. Processus de révélation. Pour ne pas dire une révélation spéciale. Un processus de révélation que nous allons voir un tout petit peu après. Mais en tout cas, dans ce processus de révélation, et qu'est-ce que c'est qu'un processus de révélation? C'est le fait de révéler quelque chose pour que cette chose soit connue. Et le livre de l'Apocalypse, une apocalypse, c'est une révélation. Et dans l'Apocalypse, Jean va révéler encore autre chose. Mais en tout cas, le processus de révélation, c'est le fait de dévoiler quelque chose qu'on ne peut pas connaître pour que cette chose soit connue. Ici, il s'agit de révéler la gloire de Dieu. Il s'agit de révéler la gloire de Dieu. Et il nous faut prendre quelques instants pour définir ce qu'est la gloire de Dieu. C'est toujours difficile de parler de Dieu, en tout cas de l'absolu, de la transcendance. Mais pour faire simple et résumer rapidement, pour comprendre ce qu'est la gloire de Dieu, il faut revenir dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il est question à plusieurs reprises de la gloire de Dieu. Et nous avons un exemple, je vais simplement citer deux exemples, dans Exode 16 et aussi dans 1 Roi 8. Mais d'abord dans Exode 16. Dans Exode 16, le peuple se met en colère contre Dieu et le peuple est fâché parce qu'il n'a rien à manger. Donc il va se plaindre devant Moïse et Dieu va dire à Moïse, « Je vais leur révéler ma gloire ». Je vais leur manifester ma gloire. Et que se passe-t-il? Dans Exode 16, Dieu va révéler sa gloire à travers l'écaille et la manne que Dieu va donner au peuple. Donc la gloire de Dieu se révèle à travers une manifestation, et c'est l'écaille et la manne que, que Dieu va donner au peuple. Un autre exemple concernant la gloire de Dieu, est dans 1 Roi 8, et nous avons tous étudié, au moment où Dieu va manifester sa gloire, c'est au moment où cette nuée, cette espèce de nuage va descendre sur le temple. Donc la gloire de Dieu se manifeste par une nuée, une espèce de gros nuage qui descend sur le temple. Donc révéler la gloire de Dieu, ça passe par des manifestations. Et finalement, et c'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est celui qui est dans le sein du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, et Dieu se révèle, en fait, par des manifestations. Et derrière, en fait, la révélation de Dieu, la gloire de Dieu, en fait, c'est la présence de Dieu qui est là. Donc Dieu ne se voit pas, mais Dieu est présent par des manifestations. Donc révéler la gloire de Dieu, techniquement, ça veut dire révéler Dieu. Et lorsque Jésus dit « Je suis venu vous révéler la gloire de Dieu », il me semble que Jésus est en train de dire « Je suis venu vous révéler Dieu ». Encore cette idée de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Et les versets 4 et 6 du chapitre 7 me semblent vont dans ce sens. Si nous relisons les versets 4 et 6 pas en entier, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Je t'ai fait connaître aux hommes ». La mission de Jésus, c'est de faire connaître Dieu, c'est de nous révéler Dieu. Si nous voulons connaître le général de Gaulle, on peut lire des œuvres sur lui, des bibliographies, lire des ouvrages, ou des livres qui ont été écrits sur le général de Gaulle. On peut aussi regarder des reportages. Et comment est-ce que Jésus, lui, nous propose de révéler le Père, de révéler Dieu, bien sûr par sa parole. Il va, au moyen de sa parole, de ses enseignements, révéler qui est Dieu. Et en particulier, pour nous qui vivons en 2012, comment pouvons-nous connaître Dieu? Au moyen de sa parole. Au moyen de sa parole qui est la révélation spéciale que Dieu nous donne. La parole de Dieu. C'est par la Bible que nous connaissons Dieu. Jésus révèle Dieu. Jésus va nous faire connaître Dieu, et il me semble qu'il y a dans ce texte une espèce de révélation mutuelle. Jésus va révéler Dieu, va nous faire connaître Dieu, et à son tour, Jésus va demander au Père de nous faire connaître qui est Jésus. C'est je parle de glorification mutuelle ou de révélation mutuelle. En révélant le Père, Jésus demande au Père de révéler aussi qui est le Fils, en fait, qui est Jésus. « Révèle la gloire de ton Fils », c'est toujours le verset 1. Jésus demande au Père de faire connaître la vraie identité de Jésus. Jésus est celui qui était avec Dieu dès le commencement. Jésus était Dieu. La pleine révélation de l'identité de Jésus a lieu à la croix, au moment de sa glorification. La croix, c'est l'heure de la gloire, c'est l'heure de l'élévation du Christ. Et la mort et la résurrection n'auront pas de puissance, en tout cas, la mort ne va pas enfermer le Christ, mais la croix et la mort et la résurrection vont révéler vraiment que Jésus était le Seigneur et le Messie. Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Dieu va donc aussi révéler l'identité de Jésus à la croix. Le Père est révélé par le Fils, et le Fils est révélé par le Père. La vie éternelle est accordée. La vie éternelle est accordée. Souvenez-vous, la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? C'est connaître Dieu et connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ à travers la parole que Jésus nous laisse, à travers la Bible. Et la vie éternelle commence ici-bas. Commence ici-bas parce que c'est ici-bas que nous pouvons commencer à connaître Dieu et Jésus-Christ. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ suit un processus. Donc, pour pouvoir connaître Dieu et Jésus-Christ, il y a tout un processus. Et nous avons déjà parlé du processus de la révélation spéciale, versets 8 et 10. Révélation spéciale, je suppose que vous avez fait le niveau 1, donc vous savez ce que c'est. Alors, le processus de la révélation spéciale, versets 8 et 10. Le Fils apporte la révélation du Père, on l'a vu. Les disciples reçoivent cette révélation, deuxième étape. Et troisième étape, ils transmettent cette révélation à leur tour. Donc, le Fils apporte la révélation du Père. Les disciples reçoivent cette révélation. Et à leur tour, les disciples transmettent cette révélation. Les disciples ont reçu la vie éternelle au moment où ils ont reçu la parole de Jésus. Les disciples ont reçu la vie éternelle au moment où ils ont reçu la parole de Dieu. C'est-à-dire au moment où ils ont reconnu que Jésus est le seul vrai Dieu. Jésus est le seul vrai Dieu. La vie éternelle n'est donc pas une vie à venir dans un paradis mystérieux ou paradisiaque, rempli de nourriture et de femmes. Elle commence ici-bas. Elle commence ici-bas pour nous, au moment de la conversion comme pour les disciples. La connaissance de Dieu et de Jésus n'est jamais une connaissance intellectuelle. Cette connaissance est plus une participation vivante qu'un savoir théorique. La connaissance de Dieu est plus une participation vivante qu'un savoir théorique. C'est une participation à la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est participer à la vie de Dieu. Et il me semble que c'est la métaphore, essaie d'illustrer la métaphore du cep et des sarments. Dans la métaphore du cep et des sarments, les sarments sont connectés au cep pour accéder à la vie. Et les chrétiens sont connectés à Jésus, sont unis à Jésus. Et dans le chapitre 15 que nous avons lu, c'est en étant connectés à Jésus que la vie peut être communiquée, peut être transmise. La vie éternelle commence ici-bas et se concrétise à travers la vie éternelle commence ici-bas et se concrétise à travers la prière. La prière. La prière, avant d'être demande, imploration, louange, est une relation. La prière, avant d'être demande, imploration, louange est d'abord une relation. Une relation, c'est-à-dire une mise en position par rapport à quelqu'un qui parle. Une mise en relation, une mise en position par rapport à quelqu'un qui parle. La méditation bouddhiste, qui ressemble, quant à sa forme, à la prière chrétienne, la méditation bouddhiste ressemble à la prière chrétienne quant à sa forme, mais sur le fond n'a rien à voir avec la prière chrétienne. La méditation bouddhiste, quant à sa forme, ressemble à la prière chrétienne, mais n'a rien à voir avec la prière chrétienne quant à son fond, quant au fond. La méditation bouddhiste permet un travail sur l'esprit humain. La méditation bouddhiste permet un travail sur l'esprit humain sans aucune relation avec l'autre, sans aucune relation avec l'autre, avec un grand A. À côté, la prière chrétienne est vécue comme un dialogue. La prière chrétienne est vécue comme un dialogue entre la créature et son créateur. La créature et son créateur. La prière que Jésus adresse ici à son Père en est un exemple, en est l'exemple. Il y a un « je » et un « tu ». Il y a un « je » et un « tu ». Les prières chrétiennes ne sont pas des incantations, des formules magiques, mais la prière chrétienne, il me semble, c'est la démonstration d'une relation vivante entre Dieu et l'homme. La prière est une démonstration de la relation vivante entre Dieu et l'homme. Deuxième partie. Faire connaître. Il y a trois impératifs dans ce texte. Ce sont les indices de structure que j'ai précisés dans le livret. Trois impératifs. Glorifie. Premier impératif que nous avons vu, il en reste deux. Garde-les et consacre-les. On va passer les dernières 10-15 minutes à expliquer ces deux termes, en tout cas. Garde-les et consacre-les. On passe un peu du registre de la connaissance au registre de l'action. les dernières paroles d'un défunt, en tout cas d'un être cher, quelqu'un qui va mourir, contiennent au moins celles-ci. Voilà ce que donc peut dire un être cher qui va donc mourir. Aimez-vous les uns les autres et prenez soin les uns des autres. Veillez sur vous, veillez les uns sur les autres. Et souvent, le futur défunt confie en fait ceux qui restent, il les confie à eux-mêmes ou il les confie à quelqu'un de confiance. La prière de Jésus ressemble un petit peu à ça, tout en étant différente. Jésus va confier les disciples à Dieu. Relisons le verset 11. « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Jésus demande leur protection. Il ne les abandonne pas à leur sort, mais il les confie à Dieu. Il les confie à Dieu. Et cette demande de protection est nécessaire pour deux raisons que nous voyons rapidement. Premièrement, Jésus s'en va et ils seront seuls. Ils ne vont plus bénéficier de la sécurité, de la protection de leur maître, en tout cas la protection immédiate de leur maître. Pour pallier à ce déficit, Jésus en appelle à leur unité. Jésus en appelle à leur unité. Quand Jésus était là, c'est lui qui garantissait leur unité, l'unité des disciples. Il ne s'agit pas ici uniquement de l'unité physique que peut former un groupe, l'unité visible, mais l'unité dont il est question, c'est l'unité d'esprit, l'unité de la foi. On vient de chanter ce chant lié à toujours par une chaîne d'amour, c'est ça ? Lié à toujours par une chaîne d'amour. Les croyants ne sont pas d'abord unis par une chaîne d'amour. Il me semble, l'évangile ne va pas dans cette direction, premièrement. Il s'agit de l'unité de la foi, l'unité de l'esprit. Et comment est-ce que je conclue, en tout cas au niveau de cette question de l'unité ? Il y a un indice dans le texte. Et lorsque vous lisez ce texte, si vous êtes assez sensible, il y a quelque chose de bizarre. Il est question du fils de la perdition, au moment où Jésus parle de l'unité. Du fils de la perdition, c'est-à-dire de Judas qui va le trahir. Reprenons le verset 12. « Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Jésus gardait les disciples unis en les maintenant dans la fidélité à la parole de Dieu. Ce qui unit les disciples, ce n'est pas les affinités ou l'amitié, ni même l'amour, parce qu'ils n'étaient pas tout le temps en train de s'aimer, les disciples. Et ils n'avaient pas tout le temps forcément aussi des affinités, parce qu'ils viennent d'un milieu social différent. Ils avaient aussi des caractères différents. Ce qui les unissait, c'était leur foi en Jésus, en Christ. Ils étaient bien différents, mais pourtant, ils étaient unis dans le Christ. C'est leur adhésion à la parole divine, à la parole du Maître, qui fait qu'ils étaient unis. Et Judas ne pourra pas, en fait, être conservé dans cette unité, tout simplement parce que Judas ne va pas conserver les paroles de Dieu, ne va pas garder les paroles de Jésus. Il refuse d'adhérer à la parole de Jésus, et c'est pour ça qu'il s'est perdu, il s'est détaché, il a rompu cette unité, il s'est écarté de la vérité. Les disciples resteront unis parce qu'ils vont rester fidèles à Jésus. Ils vont croire en Jésus. Et bien sûr, cette unité, c'est vrai, se révèle, se manifeste à travers l'amour. L'amour mutuel qu'il y aura entre les disciples, mais aussi l'engagement commun dans la mission. Donc, premièrement, Jésus demande leur protection pour que leur foi ne défaille pas, en fait. Père, garde-les afin qu'ils continuent à croire. Garde-les de la chute. Deuxième raison pour laquelle Jésus demande qu'ils soient gardés, c'est le troisième impératif, consacre-les. Ils ont besoin d'être gardés car ils vont affronter la haine du monde. Ils vont recevoir, connaître la persécution du monde. Je nous renvoie au message d'hier, mais j'attire simplement notre attention sur ce que Jésus dit. Je leur ai donné la parole et le monde les a détestés. D'ailleurs, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, c'est les versets 14 et 15. Les versets 14 et 15. La haine du monde vient en réponse à la parole proclamée, à la parole qui est confiée et qui est proclamée. La haine du monde vient en réponse à la parole qui est confiée et proclamée. Les apôtres sont les derniers maillons, sont le dernier maillon de la révélation. Ils sont les dépositaires de la parole. Dernier maillon de la révélation, ils sont les dépositaires de la parole. Cette parole laissée par Jésus. Les apôtres l'ont mise par écrit, ont mis les paroles de Jésus par écrit et nous l'ont transmise. Si les disciples n'étaient pas, avaient été enlevés du monde, n'étaient pas restés dans le monde, comment auraient-ils pu à leur tour, en fait, mettre par écrit et communiquer cette révélation divine? Les apôtres ont été purifiés par la parole, c'est Jean 15:3, on l'a déjà vu. Ils ont été purifiés par la parole et ils ont été mis à part, ils ont été consacrés pour servir Dieu. Et en particulier dans cette consécration, Jésus va se consacrer à travers le lavement des pieds qui symbolise, qui préfigure sa mort à la croix. Les disciples vont être consacrés, Jésus leur demande « consacre-les » et en particulier par la mise par écrit, en tout cas la mise par écrit, la retranscription par écrit de la parole de Dieu. Le monde les déteste, le monde les déteste parce qu'ils sont différents, les disciples sont différents du monde. Ils ont accepté, ils ont reçu la parole de Jésus, ils ont mis par écrit et ils ont transmis cette parole. Ils ont la haine du monde parce qu'ils proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai essayé, durant ce camp, de vous donner des clés de lecture. Des clés de lecture pour relire ces chapitres 13 à 17. Et pour ceux qui n'ont pas dormi, c'est bien. Mais si vous n'avez pas tout compris, vous aurez le temps, en tout cas en rentrant chez vous, pour retravailler ces différents textes, ce que vous avez entendu. Chaque prédication représente à peu près un peu plus de 20 heures de travail. À peu près 20 heures de travail condensées en 25-30 minutes. Donc si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. J'ai simplement essayé, avec l'aide du Seigneur, de communiquer quelques clés de lecture. Clés de lecture, par exemple, comprendre que cette métaphore du cep et des sarments, il me semble, est centrale dans l'ensemble du passage de Jean 13 à Jean 17. Comprendre que le lavement des pieds a pour signification la croix, la mort de Jésus à la croix. Comprendre que derrière, en tout cas, la question de la vie éternelle, il y a la connaissance de Dieu. Des clés de lecture que j'ai essayé de nous proposer en toute humilité, parce que je ne prétends pas dire qu'il s'agit de la vérité, mais simplement pour essayer de nous guider dans notre recherche pour mieux connaître Dieu. La préparation de ces interventions m'a énormément été bénéfique. Et je ne suis pas aussi le seul qui a dit ça, mais aussi Jonathan a relu mes interventions et Jonathan lui-même m'a confié avoir été vraiment renouvelé par la lecture de ces interventions. J'ai simplement souhaité nous aider à mieux connaître le Seigneur. Mieux connaître le Seigneur est une connaissance qui va à la fois nous donner des fondements solides dans notre foi et aussi une connaissance qui va nous aider à mieux aimer le Seigneur et mieux aimer notre prochain. Si la vie éternelle commence ici-bas, si elle commence bien ici-bas, elle commence avec la connaissance de Dieu, c'est-à-dire accepter, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et nous continuerons cette vie éternelle dans l'au-delà. Comment rester fidèle à Jésus et tenir bon jusqu'à son retour? Premièrement, rester connecté à Jésus. Deuxièmement, continuer à croire. Troisièmement, savoir que Jésus est présent. Quatrièmement, se souvenir de la croix. Cinquièmement, se préparer à la persécution, à recevoir la haine du monde. Sixièmement, continuer à faire des études OIA. Prions ensemble. Nous sommes heureux de te connaître. Tu combles notre joie et tu nous combles de joie. Merci, Père, de ce que tu t'es révélé par Jésus-Christ. Tu continues à te révéler au travers de ta parole et par ton esprit. La croix est une réalité que nous pouvons saisir par la foi. La croix nous a fait entrer dans l'éternité avec toi. Aide-nous, Père, à marcher dans cette vie jusqu'à ton retour. Aide-nous à faire connaître cette vie aux autres. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.